If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Three, le bingo, two,
one. Ready for takeoff.
Let's go!
La bulle immobilière. Chaque semaine, on parle de divers sujets pour vous tenir bien informé sur tout ce qui touche l'immobilier. Des experts, des discussions, des questions et des réponses. Avec votre animateur, Jeff Morin, courtier immobilier commercial et multilogement. Et Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires. Pour le meilleur show en immobilier sur la rive sud et sur la rive nord. Un contenu détaillé, c'est là que ça commence. La bulle immobilière. On vous en apprend pour vrai sur l'immobilier.
969 FM.
Vous étiez à l'écoute de la sauce. Bienvenue à notre 9e saison de la bulle immobilière à CJMD 96.9. Mon nom est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison. Et c'est maintenant le temps de votre émission nichée sur l'immobilier qui est la bulle immobilière. On reçoit Sylvie aujourd'hui, Anthony Courchaine. Anthony Courchaine est un invité qui a déjà participé à notre émission puis il a du contenu ultra pertinent. Puis comme les normes changent au fil des années, bien, ça fait en sorte qu'il vient nous faire une mise à jour aujourd'hui. Je sais que pour toi... tout ce qui est du processus environnemental dans l'acquisition, dans la vente d'une propriété, d'un immeuble, d'un terrain, toi, tu vas le voir peut-être au niveau légal sur des problématiques, sur des vices de qualité. Puis ça va être vraiment important aussi parce que, tu sais, tantôt, on pourra en parler du vice de qualité versus le vice de titre parce que maintenant, on pense que la vente sans garantie légale de qualité va permettre aux acheteurs de se retirer d'une transaction quand il y a une contamination. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui.
Oui, ça va être super intéressant. Puis en plus, c'est un entrepreneur. Dieu sait que j'aime ça parler avec les entrepreneurs. Il y a son entreprise En Phase Environnement, donc on rencontre aujourd'hui Anthony Courchaine. Salut Anthony, comment ça va?
Bonjour, très bien. Et vous?
Très bien, très bien. D'abord, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter ta dernière émission ici, dans le fond, peux-tu nous parler un peu de ton parcours? Tu viens d'où, mon cher?
C'est ça, ça fait quelques années que je suis passé à la bulle immobilière. Donc, rebonjour aux personnes qui vont nous écouter. Donc, moi, mon parcours, tout a commencé à l'école, je savais pas quoi faire, puis j'ai décidé de faire un bac en biochimie. Bac en biochimie, c'est assez large, je savais pas trop me diriger là-dedans. Finalement, j'ai réussi à dénicher un stage sur la base Valcartier à Québec. Puis, j'étais justement dans le département environnemental. C'est là finalement que j'ai fait là mes premières connaissances, premiers pas là-dedans, et j'ai trippé ben raide. Je suis allé vers la maîtrise en décontamination des sols à l'Université Laval. Puis là, à travers les années avec la base, j'ai eu assez d'expérience au niveau public et j'ai décidé d'aller faire le saut au niveau privé parce que ultimement, à l'intérieur de moi, comme tu venais de mentionner. Depuis que je suis tout petit, je veux être entrepreneur. Donc, j'avais en tête d'ouvrir ma firme en décontamination de sol. Donc, c'est ça. Je suis allé au privé 1-2 ans et j'ai décidé de faire le
grand saut.
Le grand saut. Okay.
Pour ton entreprise qui est En Phase Environnement.
Pour En Phase Environnement. Donc, 2017-2018, là, on a ouvert les portes. Ça s'est super bien passé. On a eu une belle clientèle qui revient encore aujourd'hui. je pense qu'on réussit à leur donner un bon service à clientèle. Je réussis à prendre le temps de leur parler au téléphone. Finalement, de bien les guider là-dedans, qui fait en sorte que j'ai encore cette clientèle-là aujourd'hui.
Puis tu sais, c'est une de tes approches aussi de vouloir démystifier un peu le problème, d'amener des solutions, de regarder un peu les différentes options et non pas toujours de dire, écoute, je vais te biler, mais d'avoir aussi une image générale par rapport à tout ça, là.
Non, exactement. Mais en fait, mon but, justement, n'est pas de les biler. Mm-hmm. J'ai, en fait, là, quand j'étais finalement dans mon processus universitaire, là, d'avoir ces compétences-là, j'ai commencé à faire un flip, justement, de ma maison. Donc, je me suis acheté une drill, j'ai aimé ça. finalement, je me suis acheté un duplex, je l'ai flippé, j'ai aimé ça, un autre, et ainsi de suite. Puis là, finalement, là, avec ma conjointe, on arrive à peu près là, à 50 portes actuellement, qui fait en sorte que, dès le départ, finalement, avant que j'ai commencé en phase d'environnement, j'avais déjà, finalement, la vision de mes clients.
Ouais, c'est ça. Moi, je trouve super intéressant qu'on s'est parlé en pré-entrevue. C'est que tu as la connaissance quand même du terrain dans tous les sens du terme, dans le sens que tu es un investisseur immobilier aussi. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est une plus-value, je pense, parce que tu n'es pas dans la théorie, dans les. C'est concret, tu es capable de l'expliquer comme il faut. Puis ça va être super intéressant parce que moi, j'ai une des tonnes de questions sur les phases de la décontamination. Mais je suis curieuse de revenir parce que tu as dit, depuis que je suis jeune, je savais que je voulais être entrepreneur. Mais comment ça se traduisait, ça, au quotidien, mettons?
Comment ça se... Ben, en fait, là, dépendamment de quand est-ce dans ma vie, là...
Ouais, mais tu sais, je sais pas, tu vendais des journaux puis t'as décidé de pimper ça en vendant de la limonade, tu sais, qu'est-ce qui faisait que tu savais que tu voulais être entrepreneur, mettons?
En fait, c'est le modèle de mes parents, que les deux, là, sont denturologistes, puis à leur compte. Donc, je les voyais avoir la liberté, finalement, d'être entrepreneur. Donc, entrepreneur se définit sur différents types, différentes choses qu'on apprécie. Puis c'est ça, ils avaient une grande liberté. Ils étaient avec moi là, quand je revenais de l'école, l'été, n'importe quand. Puis moi, c'est quelque chose que je voulais offrir aussi côté familial. Donc, c'est la voie que j'ai voulu prendre. Et aussi, de me faire taper par quelqu'un au-dessus, là, c'est quelque chose, j'ai beaucoup de difficultés. J'ai besoin d'avoir de l'autonomie. Puis c'est ça, là. Donc finalement, le fameux
puis,
liberté.
Puis c'est le fun que tu parles de ça au niveau de la liberté parce que, tu sais, j'ai quand même 4 enfants. Toi aussi, t'as l'opportunité d'avoir une grande famille. Puis un de mes garçons, dans les activités familiales, en plein jour, etc., t'sais, il a dit à un parent où c'était son enseignante, il dit « Non, moi, mon père, il est capable de prendre du temps pour venir à mes activités. » Puis là, j'étais comme « Wow, ça, c'est cool. » Fait que cette petite liberté-là vaut beaucoup plus pour tous les autres sacrifices qu'on en fait aussi. Là. Puis arrive en phase d'environnement, ça fait 5 ans que vous êtes en affaires. Tu parlais de 2017-2018. Vous êtes partout. Vous travaillez pas juste seulement à Lévis-Québec, mais tu en travailles aussi à l'extérieur. J'aimerais ça que tu puisses nous donner un peu l'éventail de l'offre de service, de qu'est-ce que vous proposez, puis c'est quoi en phase environnement?
C'est ça. Donc, comme tu viens de dire, là, autant cette année, là, on a passé à Gatineau, on est allé à Val-d'Or, on est allé en Gaspésie, puis finalement, le long des lignes, là, on va dire Sherbrooke, là, pour bien faire. Puis, à l'intérieur de notre parcours là, partout au Québec, on a fait justement, bon, majoritairement des phases 1. L'évaluation environnementale de cette phase 1. C'est finalement là, le document qui est demandé par les institutions financières, principalement en multilogement commercial et industriel. Et bon, à l'occasion, là, certaines propriétés résidentielles pour des points peut-être plus majeurs là, lorsqu'ils sont sur une ancienne station-service ou etc., cette évaluation environnementale-là, bon, peut se concrétiser finalement en caractérisation environnementale phase 2, qui, elle, finalement, se trouve à être les forages. Donc, on va finalement prélever des échantillons de sol, des fois de l'eau souterraine également, pour savoir si c'est contaminé. Lorsque c'est contaminé, quelquefois, je vous dirais de plus en plus souvent, on doit retourner faire une caractérisation complémentaire. Pour mieux délimiter la contamination. Cette caractérisation complémentaire-là, pourquoi finalement on ne l'a pas faite dès le départ puis qu'on doit finalement refaire des forages, c'est parce que dès le départ, nous, on s'engage avec notre firme, nos assurances, notre risque finalement, d'aller faire le minimum de forages pour finalement que le client paye le moins cher possible lors de sa phase 2 parce que ce n'est pas contaminé puis que finalement, il a payé le gros stock.
Mais il ne sera pas content en plus.
Ben, il ne sera pas content. Mm-hmm. Fait que là, finalement, on y va avec le minimum, puis si c'est contaminé, on va aller là, refaire d'autres forages pour mieux délimiter, puis ultimement, après ça, aller décontaminer. Donc, c'est vraiment l'éventail des services qu'on fait actuellement.
Puis, quand on parle là, des différentes vérifications sur la contamination, tu parlais de phase 1, c'est une recherche qui est pas mal plus documentaire. Exact. Là, tu sais, dans le fond, vous regardez quoi quand on fait une recherche documentaire? C'est où vos sources et qu'est-ce que vous prenez comme information?
En fait, lors d'une phase 1, on fait, bon, premièrement, la demande auprès de la ville, le ministère de l'Environnement, quelquefois, la RBQ, là, dépendamment quel type d'activité qui se trouve. Et ça, c'est je commence par celui-là parce que c'est le pan qui est le plus long, là, finalement. Eux, ils ont 30 jours ouvrables pour nous répondre. Donc, c'est ce qui fait que les phases 1, c'est souvent long. Puis bon, à l'intérieur, finalement, de ces délais-là, nous, ce qu'on va faire d'autre, c'est on va faire la visite de la propriété. On va également vérifier des photographies aériennes du passé. Souvent, là, je vous dirais que ça commence dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Dépendamment de où au Québec, là, évidemment, les vieilles villes, on peut avoir des photographies plus anciennes que ça. On va également vérifier sur les terrains fédéral, provincial pour les terrains contaminés, des urgences environnement pour des déversements. On va également aller au registre foncier parce que des fois, bon, il y a des inscriptions sur le registre public là, sur des contaminations ou autres.
La liste des terrains contaminés aussi. Là. Il y a des répertoires de terrains contaminés aussi.
C'est ça. Donc, ça, autant au fédéral au provincial, là, il y a ces deux répertoires-là qu'on va vérifier. Évidemment, lui du provincial est beaucoup plus volumineux que le fédéral qui s'en tient là, finalement aux activités, on va dire, portuaires, militaires. Donc, également, là, qu'est-ce qu'on va aller vérifier d'autre? Lors de la phase 1, le registre foncier, je l'ai dit, il y a finalement une entrevue avec une personne qui connaît très bien la propriété. Donc, souvent, c'est le propriétaire. Sinon, c'est les anciens propriétaires. Donc, nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est les anciennes activités commerciales. Lorsque c'est du multilogement, évidemment, on axe beaucoup sur le mode de chauffage ou sinon des anciens bâtiments qui auraient été démolis. Donc, c'est principalement ça. Là,
une des choses que je trouvais vraiment impressionnante aussi, c'est la BANQU, là, c'est la Bibliothèque des Archives nationales du Québec, où ce qui a un contenu incroyable d'informations qu'on peut aller rechercher là-dessus. Puis, c'est une bible aussi pour vous, pour la documentation, revoir dans le temps, etc. Est-ce que c'était une ancienne station-service? Est-ce que le voisin était une ancienne station-service? Parce que faut pas oublier que le sujet, c'est votre principale activité. Par contre, vous devez savoir le voisinage. Tu sais, est-ce que c'était une station-service? Est-ce que c'était un terrain contaminé? Est-ce qu'il y a des activités qui pourraient être problématiques pour le terrain? Fait que vous regardez pas juste un terrain, mais aussi l'environnement externe.
C'est ça, exact. C'est un très bon point que tu apportes. En fait, là, pour ce qui est de la BANQ, effectivement, là, c'est un registre qui est public et qui regroupe là, finalement des anciens documents d'assureurs. Donc, il y a des dessins sur tous les secteurs, là, les vieux secteurs, là, on va s'en tenir à ça. Et justement, là, comme tu disais, là, à travers les années, ils ont dessiné là, des bâtiments avec leurs fonctions dessus, le type de chauffage aussi. Donc, c'est une ressource là, inouïe pour nous. Là.
Puis quand on parle d'investisseurs ou qu'on veut faire un investissement, qu'on veut une promesse d'achat conditionnelle, à avoir une étude de caractérisation des sols, tu dis que c'est 30 jours ouvrables, fait qu'on tombe déjà à 45 jours avec les municipalités là, pour arriver sensiblement dans nos délais. Vous avez une rédaction de rapport, une recherche documentaire qui est faite aussi pendant ce processus-là. Sauf que nous, à titre d'investisseur, on doit prévoir quoi comme délai? À peu près un 60 jours, on se protège puis on est capable d'arriver à livrer la phase 1?
C'est ça, exactement. Donc, pour la phase 1, là, l'évaluation environnementale, c'est 60 jours. Nous, parce que la Ville nous promet 30 jours ouvrables, ça arrive à l'occasion qu'il dépasse ces délais-là. Mmh. Donc finalement, on essaie de faire le plus rapidement possible. Mais comme tu dis, le 60 jours, c'est un délai qui est raisonnable pour qu'on puisse livrer un rapport de qualité.
Parfait. Puis moi, je donne un cue pour les investisseurs, là. Callez-le dès que c'est accepté. Là. Attendez pas une semaine après pour essayer de négocier, etc. Vos processus de négociation sur la soumission que vous allez recevoir, ça se fait avant. Là. Quand on est prêt et qu'on a une acceptation, c'est le temps de passer go. Après ça arrive la caractérisation. Puis là, tu sais, dans le fond, de qu'est-ce que j'en comprends, c'est que vous voulez connaître à quel endroit ça pourrait être probable qu'il y ait des sources de contamination. Puis les sources de contamination, tu le dis, les hydrocarbures, le mazout, les réservoirs à l'huile, etc., c'est souvent ça qu'on voit. Nous, comme courtier immobilier, on a souvent des éléments de contamination au niveau de fuite ou de d'écoulement de mercure. Mais est-ce que ça l'a déjà arrivé que tu as pu avoir une contamination de mercure? À quel endroit qu'on peut avoir vraiment un déversement majeur de mercure? Parce qu'habituellement, c'était genre une mini-goutte, là.
En fait, les mercures, là, principalement, on le mange dans nos poissons. Non, c'est
pas... Ouais, ouais, exact.
Mais c'est plutôt rare, là, de notre côté, qu'on a des versements de mercure, là, parce que au final, c'est super volatile, si je me trompe pas. Donc, on n'a pas beaucoup, là, de contamination au mercure dans les sols. Nous, de notre côté, lorsqu'on va faire une phase 2, pour du multiplex, qui est la majorité des gens, finalement, eux, bon, évidemment, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le mode de chauffage. Donc, on va cibler principalement là où il y a le réservoir, la fournaise et les tuyaux de remplissage. Maintenant, s'ils habitent dans une vieille ville ou dans un vieux quartier, c'est vraiment pas rare que, finalement, même si on va à l'extérieur pour faire un forage pour le mazout, au tuyau de remplissage, ce n'est pas rare de rencontrer du remblayage de mauvaise qualité. Donc, anciennement, là, dans les années 1900, il n'y en avait pas il y avait pas de poubelle verte, là. Le monde faisait un trou chez eux, ouvrait la fenêtre, jetait ça là. Donc, tout était jeté là. Les changements d'huile, c'était à même le sol. Donc, c'est pas rare, là où il y a eu beaucoup d'activités humaines, que les sols, la propriété... soit contaminé. Ouais.
Comme Jeff, tu disais en intro, les règles ont beaucoup changé. C'est ça qui est intéressant aussi. On va en revenir là-dessus. Les mises à jour de rapports de phase 1 et tout en fonction de la nouvelle réglementation. Mais c'est un bon point quand on retrace l'historique puis qu'on voit que les choses qui peuvent être faites. Ça passe déjà vite, le premier segment. Je veux juste savoir le nombre d'employés dans phase environnement, c'est quoi?
On est 4 présentement.
OK. C'est bon. Puis vous promenez partout comme ça.
On se promène toujours partout.
OK, quand même. Hein? Mm-hmm. Super intéressant. Je pense que ça met bien la table. Nos émissions sont disponibles en podcast sur nos sites web www.jeanfrancoismorin.ca ou sur mon site web www.vigiquebec.com et sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et Balados.
La seule station hip-hop au Québec.
Laurent et les truands.
Avec Timo.
Cogito pensait avoir perdu ce verse-là. M'a appelé là, 3 ans, 12 ans, en me disant, hey, Fred, by the way, j'ai un verse de pagaille, je sais pas trop quoi faire avec. OK, moi, je sais quoi faire avec.
C'est pas sorti nulle part, guys. C'est là, vous entendez ça sur les ondes de CGMT live avant tout l'hiver entier. Ça sort demain soir à midi sur une plateforme. Fait que vous pourrez dire que vous l'avez entendu pour la première fois à Laurent et les truands sur CGMT 96 ans.
Ne manquez pas Laurent Lutelin du lundi au jeudi dès midi.
AutoSetApo.com
CJMD, l'alternative radio.
De retour à la bulle immobilière.
De retour à la bulle immobilière.
De retour à la bulle immobilière avec Anthony Courchaine, président d'Enfance Environnement, toujours avec la co-animation avec Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires. Aujourd'hui, on parle d'environnement. Aujourd'hui, on parle de décontamination. C'est des sujets chauds. La réglementation devient de plus en plus sévère. Je pense qu'elle devient aussi rapide ou aussi restrictive que les taux d'intérêt peuvent augmenter dans les derniers mois, là, tu sais, pour faire une comparaison. Mais Anthony, au niveau de la décontamination, il y a différents types de sols. On parle de sol A, du sol B, du sol C, puis il y a du AB, puis tu sais, il y a différents types de sols ou de gradation de sols. J'aimerais ça savoir comment ça fonctionne, de quelle façon qu'on peut définir la qualité du sol, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec cette qualité de sol-là?
Oui, ben en fait, nous, comme professionnels, quand on va évaluer le type de contaminant dans le sol, il y a une concentration en ppm par milligramme, bref. Puis ça, nous, on veut pas la donner au client, donc on pré-marche ça. Puis, en fait, le ministère de l'Environnement a pré-marché ça aussi pour nous, pour mieux divulguer. Donc là, principalement, lorsqu'on a des sols naturels, on dit qu'ils sont de type A. Ils sont allés dans différentes provinces au Québec pour analyser tous les types de contaminants, puis ils les ont définis comme de type A. Ensuite, lorsqu'il y a une légère contamination, on rentre dans du AB. Les sols AB, finalement, sont acceptable sur les résidences privées, locatives, multiplex et commerciales, industrielles. Donc, on n'a aucune restriction au niveau de l'achat lorsqu'on a ces sols-là, bien qu'il y a des restrictions pour ces sols-là, que je vais y revenir. Ensuite, on a les sols de type B. Le B, finalement, c'est la limite acceptable pour le résidentiel. Donc, aussitôt qu'on tombe dans du BC, finalement, là, ce n'est plus acceptable pour le résidentiel, mais c'est toujours acceptable pour le commercial industriel. Maintenant, là, c'est le même processus pour le commercial qui est finalement le niveau C. Donc, C, c'est la limite. Lorsqu'on dépasse, lorsqu'on est plus grand que C, ce n'est plus acceptable. Je vais faire juste une parenthèse pour finalement la concentration RESC. Qui, elle, finalement, là, c'est la contamination la plus élevée qu'on peut retrouver. Et souvent, on doit aller enfouir ces sols-là dans une cellule de béton qui va être recapée. Et c'est vraiment la grosse opération pour ces sols-là.
Ça arrive-tu souvent que tu fais face à ce genre de sols-là?
Ça arrive quand même assez souvent dans le Vieux-Québec, là. Il y a finalement des concentrations en métaux lourds à divers endroits qui peuvent être assez sévères. Bon, les industries, là, industries de métaux, de pâte et papier, les grosses industries peuvent générer ce genre de contamination-là le plus fréquemment, là, si on peut dire. C'est sûr que si monsieur, madame, tout le monde, au travers des années, décide de s'improviser atelier de soudure à l'extérieur, ça, il pourrait y en avoir là, une certaine quantité, là.
Puis comment qu'on fait pour décontaminer un sol ou décontaminer la matière là? Tu sais, est-ce qu'on fait juste exposer ça au soleil puis que tu sais le temps va faire son œuvre puis ça va s'évaporer puis la terre va redevenir propre à usage?
Ben en fait là, je vous dirais qu'il y a personne là qui ont des sols contaminés chez eux qui peuvent les décontaminer. Donc il faut vraiment les envoyer vers les centres de traitement de sol. Puis eux ont diverses techniques pour décontaminer. Il y en a qui sont par bon barbotage avec de l'eau. Il y en a d'autres que c'est trempé dans des produits chimiques qui va faire précipiter les métaux. Il y en a d'autres justement que c'est par aération puis avec des produits chimiques là pour finalement venir casser les chaînes d'hydrocarbures puis décontaminer là à travers les mois. Lorsque c'est fait, eux autres les centres de traitement vont simplement là, finalement les disposer pour aller soit les vendre ou les mettre ailleurs là.
Et puis, les méthodes de décontamination, là, le plus simple qu'on peut voir, c'est qu'on se rend sur le site suivant la caractérisation. Après ça, il va avoir la réhabilitation des sols. Fait qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir extraire le contenu contaminé. On va refaire des expertises sur les parois du pourtour pour savoir si c'est contaminé ou pas. Puis par la suite, un coup que ça s'est fait, puis que les parois sont saines, le fond est sain, etc., mais là, à partir de là, on va pouvoir remblayer le terrain, puis le sol va devenir propre à l'usage. C'est un peu comme ça que ça fonctionne pour la façon la plus simple?
Exact. C'est sûr que c'est quand on dit la plus simple, là, quand ça tombe, là, une contamination dans un sous-sol de quelqu'un, évidemment, on regarde ça d'un œil extérieur, c'est peut-être pas le plus simple, mais c'est la solution la plus rapide.
Puis quand on parle de contamination, par exemple, sur un multilogement, on l'a déjà vécu pour un 12 logements, justement, tu sais, vous avez l'équipement aussi là pour faire les mini-excavations. Fait que tu sais, on n'arrache pas un pan de mur complet pour arriver avec la grosse pelle mécanique puis venir creuser. Vous avez des mini-excavatrices, vous avez de l'équipement manuel aussi où ce que les ouvriers peuvent venir creuser sur place. Par la suite, vous avez des convoyeurs. Fait que, tu sais, le contenu est remis sur un convoyeur qui, lui, est dompé dans un camion ben. Fait que, tu sais, dans un cas comme ça, vous êtes en mesure de le faire aussi à l'intérieur d'un immeuble, mais pour éviter le maximum de frais aux propriétaires. Parce que j'ai vu d'autres compagnies d'environnement qui disaient, écoute, nous autres, si on faut enlever un mur, on enlève un mur, là, tu sais, on décontamine. Puis, tu sais, jusque où ça peut être dommageable, une contamination dans un immeuble. Puis, tu sais, je pose la question parce que on a eu, à un moment donné, on vendait un 10 logements, il y avait un ancien réservoir. La contamination avait été prise sur le pourtour de la contamination. Tout a été retiré, mais par la suite, il disait qu'il y avait de la contamination à l'horizontale en dessous des fondations. Là, tu sais, est-ce qu'on doit pieuter le 10 logements complètement, aller creuser en dessous pour pouvoir aller chercher la contamination? De quelle façon, à un moment donné, qu'on est capable de venir excaver sans nécessairement tout démolir?
Ben, en fait, c'est beaucoup de cas par cas. Puis, c'est sûr que chaque compagnie, on leur approche. Là, il y en a qui vont rentrer, qui vont vouloir tout démolir. Il y en a d'autres. Bon, notre approche, je vais pas parler des autres. Notre approche, nous, finalement, c'est vraiment d'aller vérifier avec le client puis de regarder la solution la plus la moins coûteuse. Des fois, c'est la plus longue. Des fois, c'est la plus courte. Ça dépend du client. Donc, mais évidemment, on s'entend que le point principal de chaque client, c'est que ça soit le moins coûteux possible.
Mais en même temps, là, il y a une question de santé. Donc, c'est ça, c'est moins coûteux, mais il faut protéger la santé, dans le fond, des habitants. C'est ça que je comprends.
Oui. C'est sûr que les critères ont été mis en place par le ministère de l'Environnement pour préserver la santé du public. Puis quand on dit la santé du public, bon, l'être humain, mais aussi la faune et la flore. Le ministère de l'Environnement, évidemment, ont leur objectif de protéger là, principalement les eaux souterraines du Québec. Et lorsqu'il y a une contamination, évidemment, les eaux souterraines peuvent venir chercher.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Chercher cette contamination-là et l'amener, par exemple, là, dans notre fleuve.
Puis ça me pose une autre question aussi, parce que des fois, la contamination peut venir en dessous de notre sol sans nécessairement que ça soit nous la cause, d'où justement les eaux souterraines vont ruisseler en dessous de l'immeuble, puis on va avoir une certaine contamination dans le pourtour des eaux souterraines. Mais de quelle façon qu'on peut venir... régulariser la situation en dessous de notre immeuble ou en dessous les eaux souterraines, du moment où est-ce que la provenance provient de quelque part d'à côté? Là.
Lorsque on effectue finalement des forages, que ces forages-là, on les transforme en puits d'observation, on est en mesure d'aller échantillonner l'eau. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait au minimum un triangle aux limites de la propriété. Donc, on va savoir finalement quel type de contaminant va rentrer dans les eaux souterraines sur la propriété et lesquels vont sortir aussi. C'est sûr que si ça rentre, tout est beau, puis quand ça sort tout contaminé, bien évidemment, la problématique, on se doute qu'elle va venir de notre propriété. Si ça rentre, là, ça rentre avec une certaine concentration, puis ça ressort avec la même, bon, on peut facilement expliquer que ce n'est pas notre propriété qui contamine les eaux, pardon. Et la manière de réguler ça, techniquement, il n'y en a pas réellement pour la propriété. C'est une problématique sectorielle. Ça veut dire que la source de contamination provient d'un voisin. Puis c'est cette source-là que le ministère cherche à trouver pour finalement retirer. C'est sûr que dans notre situation, on pourrait pomper les eaux, les traiter sur place, mais ça serait peut-être là, a pu finir. Là. On ne sait pas si la source de contamination elle est gigantesque ou non. Donc, c'est vraiment peut-être là, un avis de contamination à aller divulguer aux voisins, finalement. Puis bon, les voisins vont finir par se parler puis jusqu'à temps qu'on trouve le problème. Là.
OK, parfait. Puis tantôt, tu as parlé d'activités visées aussi. Là. J'aimerais sûr que tu nous donnes un guideline un peu sur c'est quoi des activités visées, quel genre d'entreprise, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on s'en va vers une activité visée.
Ben, dans les activités visées, pour le commun des mortels, je ne vais pas rentrer dans les usines de fabrication aérospatiale qui en font partie. Mais tu sais, ceux qu'on retrouve principalement, on a des concessionnaires automobiles, des stations-service, les fameux ateliers d'usinage. Atelier d'usinage, là, c'est assez large. Tu sais, quand on y pense, là, ça peut être un petit monsieur, madame, tout le monde qui rouvre son petit local puis il fait de l'usinage. Ensuite, on peut retrouver également des parcs d'autobus. En fait, tout ce qui est finalement...
Entreposage de véhicules.
Pas entreposage de véhicules. C'est vraiment autobus, véhicules lourds. Donc, tous les concessionnaires et réparation de ce type de véhicules-là. C'est le genre de commerce qu'on retrouve beaucoup. Sinon, bon, vous pouvez y voir aussi, là, bon, usine de pâte et papier. Sinon, des anciennes scieries. Au Québec, là, il y en a eu plusieurs cours d'eau. Il y en a des petites. Tu sais, des fois, là, c'est sur un ancien terrain résidentiel. Puis ça, j'ai vu plusieurs problématiques d'anciennes scieries là, partout au Québec.
Puis au-delà de ça, arrivent aussi des obligations de rendre les sites propres. Puis ça, il y a des activités où ce que je crois quand il y a un changement d'usage ou qu'on arrête des activités, par exemple, un concessionnaire auto vend son immeuble là, où ce qui était localisé, se relocalise près des autoroutes, etc. Mais comme il cesse ses activités, lui, il va devoir rendre son site propre, exact?
Exactement. Donc, lui, il va avoir là, un temps défini pour effectuer la phase 1, phase 2, envoyer ça au ministère pour que le ministère s'en porte satisfait. Là. Puis dans l'éventualité où c'est contaminé, de faire la décontamination. Donc là, on parle d'une cessation d'activité, mais s'il y a un changement d'usage, ça rentre aussi dans cette obligation d'effectuer phase 1, phase 2.
Oui, parce que sinon, ça serait beaucoup trop facile de détourner cette obligation-là puis changer ton usage pour après ça fermer. Là.
Ah, définitivement. Ouais. Puis, tu sais, il y en a plusieurs aussi. Puis la contamination, est-ce que je me trompe que, tu sais, en date d'aujourd'hui, les constructions depuis 2000, 2010, 2020, là, tu sais, ça sera pas des sites qui vont être à risque de contamination parce que là, maintenant, les promoteurs sont obligés de faire des expertises de sol avant même de faire des constructions, etc. Fait que, tu sais, les sols sont déjà pré-vérifiés avant de faire un développement résidentiel. Ça doit se retrouver beaucoup plus dans des vieilles section de ville, tu sais, dans des vieux quartiers où ce que c'était des milieux beaucoup plus ouvriers, où ce que tu sais, il y avait des shops sur toute la rue Saint-Joseph à l'époque, puis que tu sais, fait que ça doit être très centralisé dans les vieux secteurs.
Oui, donc nous, lorsqu'on tombe dans des vieux secteurs, là, je vous dirais qu'à majoritairement, on va en phase 2. Les nouveaux quartiers, comme tu viens de le dire, là, c'est la nouvelle génération, tous les constructeurs, entrepreneurs se sont beaucoup mis au pas finalement là, avec ça parce que c'est des amendes très salées que le ministère de l'Environnement peut donner. Là.
Puis au-delà de ça, c'est que les municipalités sont plus sévères aussi parce qu'ils veulent s'assurer que leur contenu de leur site soit propre et que tout soit conforme aussi. Là. Fait que c'est tout à l'avantage. Puis au niveau de la contamination, après le prochain segment, etc., on a plusieurs... tu sais, quand on parle de contamination, on a toujours des craintes. C'est un peu là-dessus aussi qu'on va parler de retour de pause, mais j'aimerais ça que tu viennes juste nous résumer un peu le guideline des étapes de qu'est-ce qu'on doit faire. Phase 1, après ça, on attend l'étude de la phase 1, à savoir s'il peut avoir des sources de contamination. Après ça, il va y avoir la caractérisation, parce que là, vous allez faire de l'échantillonnage. Puis si jamais il y a encore une source de contamination qui est plus importante que la norme, ben là, vous n'aurez pas le choix de venir faire une expertise supplémentaire qu'on parle de caractérisation complémentaire pour s'assurer à quel endroit de localiser. Puis après ça, vous devez extraire le contenu puis de le disposer à quelque part, c'est ça?
C'est en plein ça. Donc, c'est ça. Donc, l'évaluation, là, comme on disait, là, un 60 jours pour faire la phase 1, pour aller chercher toute la documentation nécessaire. Suite à ça, si vous êtes un nouvel acheteur, un nouveau quartier, dites-vous que ça risque pas mal d'arrêter là. Si vous êtes dans un vieux quartier, mettez tout de suite là, l'idée qu'il va y avoir une phase 2. Il n'y aura pas de mauvaise surprise pour personne. Donc, phase 2, on parle peut-être là, d'un 45 jours, là, 30-45 jours.
Qui se fait assez vite parce que là, tu sais, on a le rapport, on sait à quel endroit qu'on carotte, vous savez exactement qu'est-ce que vous allez faire. Habituellement, la machinerie est disponible aussi. Tu sais, tout ça peut se faire quand même assez rapidement. Mais il y a les délais de traitement, puis ça doit être là que ça doit être le plus long aussi, là, en laboratoire.
Il y a les délais de traitement pour le laboratoire, mais aussi il y a un certain délai pour aller localiser les infrastructures souterraines pour être sûr que les foreurs vont pas forer dans un fil électrique là, de Bell, par exemple. Donc, il y a ça pour le forage comme délai. Ensuite, si on doit retourner, évidemment, les localisations sont déjà faites. Donc, c'est vraiment juste la portion du laboratoire. Donc, c'est peut-être un petit peu plus vite, plus le 30 jours la deuxième fois. Puis, finalement, vient le temps de la décontamination qui, ça, est très variable. Là. C'est en fonction de l'emplacement de la décontamination. Si c'est à l'extérieur, ça va super rapidement. S'il y a de la place, évidemment, pour manœuvrer, là, la grosse machinerie, 12 roues puis pelle mécanique. Sinon, à l'intérieur, là, c'est du cas par cas. Là. On pourrait pas donner un
parfait. Puis après ça arrive le plan de réhabilitation, justement, qu'on va changer les sols. Vous allez fournir un rapport scellé par un ingénieur qui va dire les sols en date d'aujourd'hui maintenant sont non contaminés. Fait que comme ça, généralement, vous allez pouvoir aller de l'avant avec votre transaction immobilière. Puis sinon, il n'y a pas nécessairement d'autres étapes. Au niveau des coûts, est-ce qu'on peut donner une ligne directrice? Une phase 1, c'est à peu près entre 1,500 et 2,000 environ?
C'est ça, environ 1,500 pour une phase 1. Phase 2, bon, dépendamment du nombre de risques évalués dans une phase 1, je vous dirais que ça peut aller de 3 à 15 000. C'est un peu vague, mais ça donne quand même une bonne idée. Mm-hmm. Ensuite, pour une décontamination, si c'est à l'extérieur, ça va coûter beaucoup moins cher qu'à l'intérieur, mais c'est aussi en fonction du type de contaminant, de la profondeur du contaminant, du volume du contaminant. Donc, c'est des journées qui peuvent coûter très cher aussi là, en décontamination. Là.
Hey, j'ai une question qui vient de surgir. Là. Mettons que je suis le vendeur, puis là, j'apprends justement que mon site est contaminé. Je suis obligé là, à partir de là, de le faire décontaminer. Je peux pas juste fermer les yeux et dire « je vends plus, je ferme ça ». Est-ce que je peux faire ça ou ça devient comme une obligation?
Tu n'es pas obligé de décontaminer. Il faut vraiment que ça soit une activité visée pour être obligé de décontaminer. S'il y a un changement d'utilisation, il y a certaines portions légales là, à ça qui font en sorte que il va être obligé de décontaminer. Maintenant, lors d'une transaction, c'est les institutions financières qui le demandent. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas une question légale. Et nous, évidemment, lorsque c'est contaminé, au-dessus des normes, on va recommander qu'il y ait une décontamination. Maintenant, c'est une recommandation et non pas une obligation. Sauf que les institutions financières lient nos rapports, lient les recommandations et ça devient une obligation.
Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière à CJMD 96.9, l'alternative radio. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis de midi, de 11h à midi, juste après la sauce et juste avant Zone parallèle.
Vous écoutez CJMD 96.9.
Stay tuned right after this.
Chérie.
Hein?
Chérie.
Quoi?
Regarde ça. Ça a l'air que si tu mets une patte de lièvre au-dessus du foyer de la maison,
hein?
Elle va se vendre deux fois le prix qu'on a demandé, puis on n'aura même pas besoin d'agent.
OK.
Puis en plus, j'ai vu dans une revue scientifique que si on fait brûler de la sauge dans toutes les chambres, sauf la chambre des maîtres, on va avoir notre première offre d'ici les 48 prochaines heures. C'est pas merveilleux, ça?
C'est extrêmement merveilleux, chérie. Mais me semble que je t'avais dit d'écouter la bulle à CGMD, non?
De retour à la bulle immobilière.
Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec Sylvie Bougie de chez Vigie Services Juridiques et Jeff Morin de Nous vendons votre maison. On parle aujourd'hui avec Anthony Courchaine, président de Emphase Environnement. On a parlé de plusieurs sujets, les différentes phases et tout. Et j'avais parlé en préambule des changements. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui aussi, là, les nouveautés. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine de la décontamination, les nouveautés dans ton secteur?
Bon, pour ce qui est des nouveautés, c'est sûr que, de plus en plus, les institutions financières demandent des phases 1. La SCHL demande des mises à jour de plus en plus serrées. Donc, vous avez moins de délais pour, finalement, là, utiliser votre phase 1. Ça, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment. Sinon, là, lorsque on arrive du côté de la décontamination, il y avait là des anciennes idées de vouloir décontaminer nous-mêmes, appeler la firme d'environnement, venez-vous-en, regardez, c'est décontaminé, c'est terminé. Ça sera plus vrai, en fait, parce que depuis 2022, ils ont mis là, un ultimatum qui vient à échéance en 2023, en fait, pour ce qui est de la traçabilité des sols contaminés. Donc maintenant, tout sol contaminé devra être tracé par un logiciel du ministère de l'Environnement. Et finalement, c'est les firmes en environnement qui vont devoir manœuvrer tout ça là, pour émettre finalement le rapport avec les traçabilités de sol, justement parce qu'il y avait trop de monsieur, madame, tout le monde qui disait « moi, je vais le faire », mais finalement, les sols allaient où? On ne sait pas. Il prenait, il mettait ça dans le trailer, il amenait ça chez son ami qui a une terre agricole, puis ça mourrait là-bas. Donc, c'est vraiment ce genre de situation-là que le ministère essaie d'éviter. Et ça va être en application à partir du 1er janvier 2023. Maintenant, c'est sûr que ça aura un certain coût supplémentaire. C'est quelques dollars de plus par tonne qui va être facturé au client là, suite à ça, sans compter les frais de gestion. Puis,
OK. Au niveau des mises à jour, c'est quand même intéressant aussi. Est-ce que ça t'est arrivé souvent de faire des rapports, toi, de mises à jour et te rendre compte que finalement, soit à cause des nouvelles règles, on parlait tantôt des courants d'eau et tout, tout d'un coup, c'est à nouveau contaminé, il faut décontaminer. Ça arrive-tu souvent?
Ça arrive pas souvent. Ça arrive à l'occasion. Les mises à jour sont demandées souvent dans un délai de, je dirais, maximum 10 ans. Donc, en 10 ans, là, il faut que finalement le site ait beaucoup eu d'activité là, pour pouvoir finalement changer la conclusion de l'ancien rapport. Toutefois, lorsqu'il y a eu des anciennes décontaminations par le passé, donc ça, finalement, ça peut être il y a 20 ans, évidemment, les normes se sont resserrées, les concentrations sont plus sévères pour le résidentiel, pour le commercial, et ça fait en sorte que si on creuse un trou, on regarde chaque côté du trou pour savoir si c'est décontaminé. Donc, en prélèvement, on s'aperçoit que du côté S, on arrivait à sa limite il y a 20 ans, mais là, aujourd'hui, la limite a dû changer, puis c'est redevenu contaminé. Mm-hmm. C'est le genre de situation là, que les propriétaires qui ont fait des travaux en environnement il y a X nombre d'années là, qui doivent être sur leur garde.
Oui, ça doit être fâchant quand même, avoir passé tout le processus de décontamination. Tu arrives 10 ans plus tard, tu es obligé de refaire le travail.
Oui, mais tu sais, c'est un peu aussi les nouvelles normes RBQ quand on rénove, on construit. Mm-hmm.
On doit se mettre à jour.
On doit se mettre à jour. Fait que on voit ça dans diverses.
J'imagine que votre rôle, c'est de conseiller vos clients, leur expliquer, puis qu'ils comprennent que ben, c'est ça, c'est nécessaire. Puis j'imagine que tu expliques beaucoup le processus, toi, avec tes clients.
Ben, c'est ça. C'est rendu, là, finalement, une grosse partie de mon travail de mieux expliquer ça, puis de rassurer les gens aussi, parce que c'est pas vrai qu'on va arriver là, puis on va tout arracher, on va tout partir. Puis non, tu sais, on va arriver là, on va délimiter la zone qu'on juge encore contaminée. Le client va nous accompagner là-dedans. On va y expliquer la profondeur, le type de machinerie, la durée que ça va prendre, le coût approximatif aussi. Puis après ça, là, souvent, tout le monde est en confiance là, pour aller de l'avant vers le projet.
Puis tu sais, au niveau des contaminations, il y a tout aussi les sites là, pour un centre de traitement, etc. Eux autres aussi doivent avoir des normes, là, que, tu sais, ils doivent pas entreposer le sol A avec le sol B, C, puis le sol C. Là, fait qu'eux autres aussi doivent avoir des certaines normes à respecter, puis nécessairement, le terrain a ses capacités puis ses limitations. Qu'est-ce qu'ils font avec les sites de contamination, les sites de traitement?
Ben, en fait, les sites de traitement, c'est ça, reçoivent là, des milliers de tonnes pour les traiter, puis c'est sûr que, par exemple, un site de traitement à Montréal ou à Québec, ils n'ont pas une place infinie pour stocker ces sols-là chez eux. Donc, souvent, lorsqu'ils les décontaminent, actuellement, ils les décontaminent jusqu'au niveau AB. Puis, lorsque ces sols-là sont rééchantillonnés par eux, reconfirmés AB, ils peuvent les disposer. Il y a finalement dans les sites de traitement au Québec là, quelques compagnies qui emmènent large finalement là, et possèdent là, des anciennes mines, possèdent des anciennes carrières. Puis, ils ont droit... avec un CA du ministère de l'Environnement, finalement, de remblayer ces anciens sites-là pour les revitaliser. Donc, les types de sols AB là, peuvent être utilisés pour ce genre de circonstances.
OK, parfait. Puis, est-ce qu'il y a des genres de tamis là, qui viennent séparer les métaux lourds, etc., puis qui viennent mettre tout le magnésium ensemble, etc., etc.?
Ça, en fait, là, pour ce qui est des métaux lourds, c'est assez particulier au Québec. Il y a peu... d'entreprises là, qui peuvent là, traiter des sols en métaux lourds. On en retrouve là, principalement dans la région de Trois-Rivières, Bécancour, Contrecoeur. Et c'est ça. Ça passe dans une usine. Lixivia font précipiter les métaux. Je pourrais pas te dire. Là, je connais pas exactement leur processus, là, à savoir là, ce qu'ils font exactement avec tout ça. Mais ça reste quand même qu'ils sont excessivement suivis par le ministère de l'Environnement. Puis, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec non plus. Là.
Parfait. Puis, tu sais, il faut savoir aussi que les métaux lourds peuvent être transformés au fil du temps, mais c'est souvent des matériaux lourds qu'on voit déjà dans le roc, qu'on voit déjà à l'intérieur de la terre. Là. Fait que, tu sais, dans le fond, on peut considérer que quand c'est dans un rocher, ben il n'y a pas nécessairement de source de contamination, mais si jamais il est extrait du rocher puis qu'on le retrouve dans un autre type de sol, là, à ce moment-là, ce même métaux lourd-là pourrait être considéré comme de la contamination.
Ben, en fait, c'est un bon point que tu apportes là, avec le rocher puis les sols. C'est important de dire que des sols, ce n'est pas une roche. Là. Donc, lorsqu'on atteint, par exemple, le roc, là, ce n'est pas considéré comme des sols. Donc, il n'a pas à être décontaminé. Maintenant, s'il y a là, extraction de la roche pour après ça, bon, là, rendu là, on rentre dans, beaucoup plus là, dans des carrières ou dans des mines, finalement. Là. C'est régulé là, différemment de ce qu'on fait. Mais c'est ça. Donc, si, là, par exemple, là, on atteint le roc, là, à certains endroits, là, à Lévis ou à Québec, là, on l'atteint assez rapidement, ça n'est plus considéré comme des sols. Donc, c'est seulement la partie là, sol qu'on décontamine. Là.
Parfait. Puis, tu sais, ça m'est déjà arrivé, cette situation-là, sur la rue Fraser. Il y avait 3-4 pieds de sol végétal. Un coup qu'on a retiré ça, qu'on est arrivé sur le roc, ben les gars ils ont passé nos impressions, ils ont nettoyé la roche, puis après ça, ils ont remblayé. J'exagère, mais tu sais, on n'avait pas besoin de creuser pendant 10 pieds puis de voir les limitations. Puis il y a aussi les limitations où ce que la responsabilité, je crois, du propriétaire contaminé s'arrête à sa limite de ses terrains à lui, à part si c'est lui la source de contamination pour les voisins.
Exactement.
Fait que, tu sais, ça veut dire que si moi, par exemple, mon terrain est contaminé, que le voisin qui est la rue de la ville de Lévis, la rue Saint-Joseph ou quoi que ce soit, puis cette rue-là a pas nécessairement la même norme environnementale que mon terrain résidentiel, si moi je viens creuser à ma limite de ma propriété, que mon terrain y est propre, mais que le terrain de la ville demeure contaminé, même si c'est des pentes ascendantes vers mon terrain, moi je vais être considéré propre, mais j'ai des risques de contamination de par le terrain de la ville ou la rue ou quelque chose comme ça.
Ben c'est sûr que si la source provient de votre propriété, suite à la décontamination, on arrive aux limites de propriété, c'est encore contaminé, il va y avoir dans nos recommandations une divulgation à faire aux voisins. Maintenant, c'est important de mentionner là, les activités visées d'une, on va dire d'un multiplex, là, pour mettre ça en contexte. Monsieur, madame, tout le monde, les activités visées, donc une station-service, elle, si elle contamine trois voisins plus loin, c'est sa responsabilité de le faire immédiatement. Mm-hmm. Alors que c'est ça, donc c'est la propriété privée, oui, c'est sa responsabilité. Toutefois, il n'y a pas de ministère impliqué dans le processus. Donc c'est vraiment...
Parce que le terrain n'a pas été divulgué ou répertorié comme sol contaminé, par exemple.
L'activité sur laquelle a eu lieu la propriété, là, ce n'est pas une activité là, visée. Donc, ne doit pas finalement là,
se retrouver
sur la banque du ministère.
Parfait. Puis au niveau des bénéfices de votre entreprise, il y a des nouveautés qui s'en viennent pour 2023-2024. Vous parlez de capacité portante de sol. On parle d'emphase environnement. Effectivement, moi, je trouve que c'est une nouvelle... corde à ton arc, justement. Puis, tu sais, juste pour faire un survol de la caractérisation, c'est quoi le service que tu veux proposer pour la prochaine année?
Donc, c'est ça. Donc, côté géotechnique, on veut engager des ingénieurs géotechniques pour permettre de faire des portances de sol, des tests géotechniques qui vont permettre finalement aux futurs constructeurs de connaître là, finalement quel type de semelle, de fondation de mettre sur le terrain. C'est quelque chose qu'on envisage là, début 2023. On a une forte demande de la part de nos clients pour ça. Et je pense que ça va être un beau... une
belle autre corde.
C'est ça, une belle autre corde, là, quelque chose de complémentaire.
Puis est-ce que, par exemple, une capacité portante de sol versus un test de caractérisation, on pourrait utiliser les mêmes carottages pour deux expertises différentes?
Pas réellement, parce que dans le fond, là, pour la capacité portante, on a besoin de savoir quel type de bâtisse qui va y être. Puis, en fonction de ça, on va aller à une certaine profondeur. On va souvent atteindre le roc et même percer le roc. Chose à laquelle on va pas faire là régulièrement, là ou du moins pas à tous les coups là en environnement.
OK, parfait. Puis, un des nouveaux services dans le futur pour enfants environnement, tu parlais peut-être de regarder aussi pour... des opportunités de regarder pour un site d'un centre de traitement ou quelque chose comme ça. Fait que ça, c'est dans les cartons pour enfants environnement?
C'est dans les cartons. C'est un projet que, depuis la création d'Enphase, en fait, là, c'est un peu mon objectif ultime d'avoir un centre de traitement. Puis, c'est aussi de boucler la boucle là, dans mon secteur pour offrir finalement là, un tout inclus à mes clients puis de pouvoir contrôler ces coûts-là entièrement. Je pense que la plupart des clients qui ont fait affaire avec Enphase, là, j'ai réussi à leur donner des montants assez agressifs sur le marché. Puis c'est quelque chose, évidemment, pour tout le monde là, qui est très agréable là, d'avoir un peu moins cher, surtout quand c'est le temps de disposer de sols contaminés. Je veux dire, il n'y a personne qui... tu n'as pas une plus-value à ton immeuble si tu envoies des sols contaminés ailleurs. Là. Donc, c'est pas si tu rénoves une nouvelle cuisine. Puis c'est finalement de remettre à l'état d'origine tes sols. Donc, oui, c'est un pan là, qu'on veut développer pour offrir ça.
Quand même très cool. Vous étiez à la Bulle immobilière. On était avec Anthony Courchaine. Merci, Anthony, d'avoir été présent avec nous. Merci, Sylvie, d'avoir co-animé avec moi, toujours aussi présente à l'heure et toujours enthousiaste. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Écoute, Anthony, j'aimerais que tu puisses nous donner tes informations si jamais on veut communiquer avec toi, si on veut avoir des informations, te poser des questions, de quelle façon qu'on peut entrer en contact.
Oui, ben en fait, bon, le plus simple, là, c'est par soit téléphone ou courriel. Téléphone 418-520-9747. Pour les gens de Montréal, 514-688-9747. Et sinon, par courriel, info@commercialenphaseenvironnement.com. Chose à laquelle vous pouvez voir sur notre site Internet également.
En phase environnement. Tous nos auditeurs, si jamais vous voulez avoir des informations supplémentaires sur notre bonus content, consultez le site de vigiquebec.com ou de jeanfrançoismorin.ca. Demain dimanche, dès 15h, ne manquez pas le bingo, le plus déjoncté de la planète, le bingo de CJMD. Bye!
La seule station hip-hop au Québec.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.